grande métaphysique à Fribourg, deuxième cours du père Philippe.
Très bien, c'est la question qui vient de m'être posée. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous communiquer le plan de votre cours et les thèmes que vous envisagerez de traiter? Alors, c'est de la philosophie première. J'essaie de comprendre ici le point de départ, parce que je crois que c'est important, autrement il y a des tas d'équivoques, on ne sait pas où on s'en va. Puis nous essaierons de voir, puisqu'on l'avait vu l'année dernière, et que forcément c'est une continuité, le cours de philosophie première de métaphysique est normalement sur 2 ans. C'est toujours dommage pour ceux qui arrivent la seconde année, alors ils doivent sauter. Alors je ferai quand même très rapidement le problème de l'ousia, le problème de la substance, pour entrer le plus vite possible, parce que c'est très court, hein, sur le problème de l'acte. Alors je peux vous donner, si vous voulez, parce que c'est toujours intéressant de voir une petite synthèse au point de départ, j'invite ceux qui peuvent l'avoir, le petit livre « Lettre à un ami » qui donne une petite synthèse philosophique. Et qui, dans cette synthèse philosophique, vous montre bien les deux grands axes de la métaphysique. Et quand je dis les deux grands axes de la métaphysique, comprenons bien, on va y arriver, hein. Je peux vous le dire tout de suite, pour, comme ça, ça apaise. Hein. Les deux grands axes de la philosophie, c'est la recherche de l'ousia, c'est-à-dire de la substance, et la recherche de l'acte. Et toute la métaphysique se termine sur le problème de la personne humaine. Je dirais la première partie de la métaphysique. C'est ce que nous essaierons de voir. Je ne verrai pas la personne humaine, j'aurai pas le temps. Voir déjà l'acte, c'est déjà bien. Et une fois que le problème de la personne humaine se pose, on se pose la grande question de la philosophie première, existe-t-il un être au-delà de la personne humaine? Autrement dit, la philosophie première doit s'achever en théologie. Et ça, je crois que c'est très important de comprendre ça. Alors, je fais le petit schème, hein, pour que vous ayez un petit schème dans la tête, et puis que vous puissiez comme ça mieux réfléchir. Vous voyez bien ça. Nous partons de l'expérience. L'expérience au sens très fort. Et je prends ces quelques grandes expériences, les 5 grandes expériences, hein, qui sont le point de départ de la philosophie. Au terme de ces 5 expériences, il y a ce que je peux appeler une méta-expérience, c'est-à-dire ce qui est sous-jacent à ces 5 expériences. Ces 5 expériences, je les rappelle, le travail, l'amour d'amitié, la coopération, l'expérience de ce qui est mu, et l'expérience de ce qui se meut. C'est important de bien comprendre ces 3 grandes expériences de base qui sont la philosophie humaine, la philosophie pratique. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons toujours revenir à ce point de départ de la philosophie. Si on ne revient pas à ce point de départ de la philosophie, on risque toujours de plafonner. C'est le danger de la philosophie, surtout de la philosophie première. Alors on part dans les idées, le gargarisme d'idées. Le gargarisme d'idées n'est pas la philosophie. Ça peut être très intéressant d'avoir des idées, mais ce n'est pas quand même ce qu'on doit chercher en premier lieu. On doit essayer de chercher ce que c'est que l'homme. Toute la philosophie est pour comprendre ce que c'est que l'homme. Philosophie pratique ordonnée vers l'homme, les 3 grandes premières dimensions de l'homme. Puis, à partir de là, j'entre dans ce qu'on appelle la philosophie spéculative. La philosophie spéculative étudie ce qui est mu et ce qui se meut. Vous comprenez le lien entre les deux. Le travail regarde la matière. Et donc, je pourrais dire qu'ici, je suis en présence de la philosophie de la matière. Là, je la présuppose. Quand je travaille le bois, oui, je fais attention à ce que c'est que le bois, mais je ne me pose pas la question « qu'est-ce que c'est que le bois ?» On travaille le bois, tout simplement. On travaille ce qui est capable d'être transformé. Tout ce qui est capable d'être transformé subit le point de vue. Et alors, on a la philosophie du travail qui aboutit à l'œuvre. L'œuvre, c'est le travail qui transforme la matière. Mais je dois regarder ce que c'est que la matière. D'où une nouvelle partie de la philosophie, qui est la philosophie de ceux qui émuent, qui regardent la matière, ce qui correspond à ce qu'on a appelé traditionnellement la philosophie de la nature. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut être très attentif, parce que la philosophie de la nature, vous voyez, avec tous les problèmes de la physique contemporaine, alors il s'agit de bien comprendre que ce n'est pas la physique contemporaine, c'est tout à fait autre chose. La philosophie de la nature, c'est d'étudier ce qu'est cette matière transformable. Je suis devant un monde que je peux transformer. Et j'étudie ce monde qui a cependant des déterminations. Je ne fais pas n'importe quoi avec n'importe quoi. Donc il y a des déterminations. Il y a une phusis. Il y a une nature. Donc j'étudie cela dans la philosophie de la nature. Et l'amour d'amitié me conduit, me met en présence de la mort. La mort n'est vraiment mort que quand c'est la mort d'un ami. Vous savez bien, il y a des quantités de gens qui meurent aujourd'hui. Je m'en occupe pas. C'est triste, c'est comme ça. Je ne pourrais pas m'en occuper. Je passerais ma vie à être en face de tous les morts, hein, du monde entier, si je les voyais tous. Je ne pourrais pas, à un seul instant... La mort de l'ami, je ne peux pas m'en désolidariser. Je suis lié à la mort de mon ami. La mort de tous mes amis. C'est la mort qui montre la limite de l'amour d'amitié. C'est vrai, il y a une rupture. Et par le fait même, il y a un nouveau problème qui se montre, que l'amour n'est pas adéquat à la vie. Il y a donc un sous-jacement à l'amour, qui est le problème de la vie, du vivant. Le vivant. Il y a donc les deux grandes parties de la philosophie spéculative, la nature et le vivant. Et ce qu'il y a de sous-jacent à toutes ces philosophies, toutes ces expériences, vous voyez, c'est curieux, parce qu'on pourrait dire, il y a trois expériences les plus extérieures. Il y a deux expériences sous-jacentes à ces trois expériences, et il y a quelque chose de radical qui est dévoiler le jugement d'existence. Comprendre le jugement d'existence. Vous voyez, on pourrait très bien comprendre ça. Et ça reste vrai. Hein. Vous voyez comment ça on ferait. Le triangle supérieur, vous avez les trois expériences. L'expérience du travail, tout le monde l'accepte. L'expérience de l'amour d'amitié, tout le monde l'accepte. L'expérience de la coopération, tout le monde l'accepte. Ça, c'est ma philosophie humaine. Ma philosophie humaine repose là-dessus. Sous-jacent à cette philosophie humaine, il y a la philosophie de la matière. Et sous-jacent à la philosophie de la matière, il y a la philosophie du vivant. Et sous-jacent à ces cinq expériences, il y a ceci est le jugement d'existence. Vous voyez, je pars du pratique vers le spéculatif. Je fais l'inverse de ce que la scolastique décadente disait. Nous partons du spéculatif et puis nous arrivons au pratique. C'est juste l'inverse. En réalité, on part du pratique, tous. Avant de faire de la philosophie, on a fait quand même quelques petites expériences. Hein, de faire la cuisine, ou de faire autre chose, de la gymnastique. On a fait quand même quelques petites expériences du travail. Heureusement, on n'a pas attendu de faire des cours de philosophie pour travailler. Alors, on a une expérience du travail, la grande expérience de l'homme. On a une certaine expérience de l'amour d'amitié. On a une certaine expérience d'une communauté qui est basée sur la coopération. Une communauté n'existe que dans la mesure où on coopère. Autrement, on est juxtaposé les uns à côté des autres. Et si on est juxtaposé les uns à côté des autres, il n'y a pas de communauté. La communauté prend naissance à partir de la coopération. C'est les trois grandes parties de la philosophie, vous voyez. La philosophie du facere, donc la philosophie de l'activité artistique. La philosophie éthique, la philosophie politique. Les trois bases de la philosophie humaine. Ces trois bases de la philosophie humaine vont s'enraciner dans une philosophie spéculative de la matière et du vivant. Et qu'est-ce que nous voyons, nous ? Nous voyons ce qui est caché, ce qui est présent. C'est présent, c'est évident, c'est présent. L'existence est présente dans mon travail. L'existence est présente dans mon amour d'amitié. L'existence est présente dans ma coopération, c'est bien évident. Mais ce n'est pas ça que je pense. Quand j'aime, je ne pense pas à l'être. à moins d'être vraiment un drôle d'esprit. Quand j'aime, j'aime. Quand je travaille, je travaille. Je suis tout entier présent à mon travail. Je suis tout entier présent à mon amour. Je suis tout entier présent à ma coopération. Mais j'existe. C'est bien évident. Pour être présent, il faut exister. La présence est au niveau de la philosophie humaine. Mais au-delà de la présence, il y a la matière qui limite les présences. Il y a le vivant qui limite les présences. Parce que le vivant, il peut mourir. Il y a la mort. La mort et la vie, c'est toujours en parallèle. Et la matière, elle implique une capacité de transformation. C'est la capacité de transformation. Et donc, il faut étudier cette matière et la philosophie du vivant. Vous voyez ? Donc, je passe de la philosophie pratique à la philosophie spéculative. Et, dernier niveau, la philosophie spéculative qui étudie ce qui est. Jugement d'existence. Évidemment, c'est quelque chose de très particulier. Vous allez me dire, pourquoi arriver à cette philosophie première, à cette philosophie fondamentale, l'ontologie fondamentale, comme dit Heidegger. On voit très bien ce que ça veut dire. L'ontologie fondamentale. C'est vrai, c'est fondamental. Il faut dévoiler ce qui est, parce que c'est caché. Il y a deux couches successives qui cachent très très bien ce qui est. Vous pouvez dire cinq. Il y en a cinq qui cachent ce qui est. Ce qui est doit être dévoilé. Alors, pourquoi je fais ça? Ah, c'est parce que, de fait, ce qui est va me permettre de découvrir en profondeur ce qu'est l'homme comme une personne. Je passe de l'être à la personne humaine. Nous essaierons de comprendre ça. Nous passons de l'être, donc de ce qui est l'être, à la personne humaine. Et pour saisir ce qu'est la personne humaine, ou pour saisir ce que c'est que l'être, j'ai deux grandes analyses philosophiques. L'analyse de la substance et l'analyse de l'acte. La substance, c'est principe propre de ce qui est. L'acte, c'est principe ultime de ce qui est. Donc, c'est la saisie des principes propres de ce qui est. Et ces principes propres se trouvent réalisés d'une manière tout à fait particulière dans l'homme, dans la personne humaine. La personne humaine, elle est substance, la personne humaine est acte. Et une fois que j'arrive à cette étude philosophique de la personne humaine, je me pose la question, est-ce que la personne humaine est adéquate à l'être? Est-ce qu'il y a adéquation entre les deux? Est-ce que je peux dire l'être est adéquat à la personne humaine? Ou est-ce que de fait... Non, l'être n'est pas adéquat à la personne humaine. Et je peux le dire tout de suite, parce que les personnes humaines sont multiples. Nous sommes beaucoup ici, et chacun d'entre nous, nous avons notre personnalité. Et chacun d'entre nous, nous avons notre autonomie. Chacun d'entre nous, nous sommes une personne. Si chacun d'entre nous, nous sommes une personne, ça prouve que nous ne sommes pas adéquats à l'être. Puisque nous sommes multiples. Et si vous étiez adéquat à l'être, votre père, votre voisin, qu'est-ce qu'il serait ? Il serait du non-être. La plus grande des salutations que vous pouvez faire. Je suis donc je n'ai pas. C'est la manière de se saluer. Il faut se respecter. Donc je suis, non. Je ne peux pas dire je suis. Il y a Dieu qui peut dire je suis. Dieu et Jean-Jacques Rousseau. C'est Jean-Jacques Rousseau se présente comme ça. Je suis l'homme. Alors regardez-moi bien, je suis l'homme. Vous dites, vu des confessions. Alors, tandis que Dieu dit je suis. C'est très beau ça. Mais je suis, il n'y a que Dieu qui peut dire je suis, au sens absolu. Nous existons. Je ne peux pas dire je suis l'être. Alors vous êtes aussi, vous existez aussi. Alors nous saisissons tout de suite, vous voyez qu'il y a un hiatus entre la personne humaine et l'être. Alors existe-t-il une réalité qui est au-dessus de la personne humaine? Cette personne humaine qui est dans l'univers. Le problème de la matière. Existe-t-il un être qui est au-dessus de la personne humaine et au-dessus de l'univers? Alors, c'est la grande question. Toute la philosophie première, elle est pour cette question. On ne la verra pas, hélas. Mais je vous le dis tout de suite pour que vous compreniez la signification profonde de la philosophie humaine. La philosophie première, c'est pour que l'intelligence humaine puisse se poser vraiment la question, existe-t-il un être premier? Que les traditions religieuses appellent Dieu, Le mot Dieu m'est donné dans les traditions religieuses. Ce n'est pas un mot philosophique. Le mot philosophique, c'est être. Le mot philosophique, c'est être premier. Le mot philosophique, c'est être acte pur. Mais Dieu, c'est un mot qui vient des traditions religieuses. Alors je dois me poser la question, est-ce que l'intelligence humaine, voyez, en étudiant ce qu'est l'être, ce qu'est ceci est, du point de vue de l'être, peut-elle découvrir l'existence, l'exister d'un être premier, de l'être premier, ou d'un être premier, de l'acte premier? Est-ce que je suis capable? Et une fois que j'ai posé le problème, j'essaie de répondre. Et alors c'est ce que saint Thomas a donné d'une manière si magistrale, les cinq voies. Les cinq avenues. Il y a cinq avenues qui me conduisent vers Dieu. Et vous voyez, c'est curieux, hein, les cinq points de départ. Il y a une correspondance entre les cinq points de départ et les cinq avenues. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui me montre l'unité de mon cheminement philosophique. Quand j'arrive à cette question, je mobilise toute mon analyse philosophique. C'est toute mon analyse philosophique qui est mobilisée pour essayer de reprendre une expérience au sens fort et voir qu'à partir de mes expériences, je peux découvrir l'exister d'un être premier qu'on appelle Dieu. Et une fois que j'ai affirmé l'exister d'un être premier qui appelle Dieu, j'essaie de le contempler. Comment cet être premier existe-t-il? Alors c'est la philosophie qui devient théologie, qui devient contemplative. La philosophie s'achève dans la contemplation. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que l'analyse, il y a l'analyse. L'analyse, c'est sur quoi on insiste le plus, parce que c'est la chose la plus facile à enseigner, l'analyse. C'est pas commode, mais c'est quand même la chose la plus facile à enseigner. Enseigner la contemplation, difficile, hein. Mettez-vous dans la solitude et puis essayez de contempler. C'est très difficile d'enseigner la contemplation. D'une certaine manière, la contemplation, ça ne s'enseigne pas. Mais on montre qu'il faut arriver là. Mon intelligence humaine n'est satisfaite comme intelligence humaine, je ne dis pas comme raison, mais comme intelligence humaine, que quand elle a posé l'existence d'un être premier et qu'elle contemple la manière d'exister de cet être premier, quand elle arrive à contempler cette manière de l'être premier. Alors c'est ça tout l'aboutissant de la philosophie première qui devient une théologie. Mais évidemment, c'est la chose la moins enseignée. Hein, c'est triste, même ici. C'est la chose à moins enseigner. Alors, que serait la chose principale? Arriver à contempler l'exister premier. Voir comment nous pouvons arriver par notre intelligence humaine. Notre intelligence humaine dans sa recherche de la vérité. Notre intelligence humaine qui va aller jusqu'au bout. Alors, dans sa recherche de la vérité, l'intelligence humaine arrive à cette contemplation. Dieu est simple. Dieu est bon. Dieu est parfait. Dieu est infini. Vous voyez, je peux dire cela. Les grands philosophes l'ont dit. Mais évidemment, aujourd'hui, ça ne se dit plus beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on est en face de ces idéologies athées qui arrêtent l'élan profond du philosophe. Une fois que le philosophe a découvert cette contemplation, le philosophe essaie de comprendre le problème de la création. Quel est le rapport entre cet être premier et la personne humaine? Et alors j'ai un nouveau regard sur la personne humaine. Je vois la personne humaine comme totalement dépendante de l'être premier, totalement dépendante du Créateur. Et je découvre à ce moment-là la dernière dimension de l'homme. L'homme est religieux. Je découvre l'adoration comme l'acte fondamental de l'homme. L'homme, pour être parfaitement homme, doit adorer. Et alors vous découvrez de cette manière-là, je vous dis ça tout de suite, parce que je crois que c'est quand même intéressant à voir, vous découvrez de cette manière-là les sept dimensions de l'anthropologie philosophique. Il y a sept dimensions, hein. Vous n'avez qu'à les compter, c'est facile.
Si vous avez de la craie rouge, le bleu, ça peut bien. Ça ne voit pas, c'est pas très lumineux, ça fait rien.
Les sept dimensions. Première dimension, l'homme est un travailleur. Deuxième dimension, l'homme est capable d'aimer. Troisième dimension, l'homme est capable de coopérer. Quatrième dimension, l'homme a un corps. Cinquième dimension, l'homme est autonome dans sa vie. Il est un vivant. Sixième dimension, la personne. Septième dimension. Vous voyez, l'anthropologie. Toute la philosophie est faite pour que je découvre une anthropologie. Puisqu'elle est faite pour connaître l'homme. Mais vous voyez bien que cette anthropologie implique un dépassement de l'homme. L'homme est capable de découvrir un être premier qu'il appelle Dieu, qui est le Créateur. Et à ce moment-là, il découvre sa septième dimension qui est la plus fondamentale. Celle que je découvre en dernier lieu, mais qui est la plus fondamentale. L'homme est un animal religieux. L'homme est capable de se relier à l'être premier. Et il est capable, d'une certaine manière, de le contempler. Contemplation et adoration se tiennent au niveau philosophique. Et sont inséparables. Il ne peut pas y avoir de contemplation sans adoration, il ne peut pas y avoir d'adoration sans contemplation. Alors c'est la dernière partie de la philosophie, ça. Vous voyez, et c'est celle qu'on voit le moins. À la rigueur, on va jusqu'ici, mais comme on est très poussif, on ne voit pas le reste, n'est-ce pas ? Et on s'arrête là. Alors que c'est cela qui donne la signification à cette philosophie première. Je ne peux découvrir l'existence de l'être premier qu'en allant jusqu'à l'être. Si mon intelligence n'atteint pas l'être et ne pose pas le problème de l'être, mon intelligence humaine ne pourra pas atteindre l'exister de l'homme. Et c'est pour cela, encore une fois, ici, alors au point de vue extrinsèque, c'est pour ça que l'Église maintient toujours le point de vue métaphysique. Parce qu'elle sait très bien qu'autrement, il y a le grand danger de tomber dans ce qu'on appelle le fidéisme, qui est le danger capital d'aujourd'hui, qui consiste à dire l'intelligence humaine est incapable par elle-même d'atteindre l'existence de Dieu. Donc, il n'y a qu'à foi. Alors, à ce moment-là, vous voyez, la foi se greffe dans une intelligence qui se dit à elle-même incapable d'atteindre l'existence de Dieu. Alors la greffe de la foi n'a plus aucune connaturalité avec l'intelligence humaine. Alors on sait très bien ce qui se passe. Quand il n'y a aucune connaturalité entre la greffe et le vivant, il y a un rejet de la greffe, un jour ou l'autre. Pour qu'il n'y ait pas de rejet de la greffe, il faut maintenir la philosophie première. C'est en sens simple qu'on peut dire que la philosophie première est gardienne de la foi. Parce qu'elle maintient, elle laboure, si vous voulez, le terrain pour voir que notre intelligence humaine peut progressivement, lentement, vous voyez tout ce qu'il faut, hein. Et c'est vrai, il faut voir tout ça, il faut voir comment, hein, on doit creuser. Dieu est au plus intime, présent, au plus intime de mon être, mais au niveau de mon être, pas au niveau de ma psychologie. Vous n'atteindrez jamais Dieu au niveau de votre psychologie. Jamais. Vous ne pouvez pas. Dieu est au-delà. Il est bien au-delà. Mais il est plus intimement présent que s'il était présent dans ma psychologie. Parce que mon être est plus présent à moi-même que ma psychologie. Si je découvre un peu ce que c'est que l'être. Mais voyez comme on doit creuser. Hein. Travail, les couches successives. Hein. Et c'est septième moment. Le septième moment. Parce que c'est au septième moment. On pourrait le mettre déjà ici, si vous voulez. Mais c'est là, je reviens à l'homme. C'est ayant découvert l'existence de l'être premier, je découvre mon lien profond entre l'être premier et Dieu. Donc voyez, voilà tout l'itinéraire. Hein? Voilà tout l'itinéraire philosophique. Il faut toujours avoir un peu de map monde philosophique devant soi. Autrement, on ne comprend pas. Et il faut toujours voir ces différentes possibilités et voir le point de départ et ici les cinq grandes avenues qui reviennent au point de départ. C'est ça qui est très étonnant. Si vous regardez attentivement les cinq voies de saint Thomas, vous trouvez les cinq points de départ de la philosophie. C'est pas à cause de ça que je dis cinq points de départ de la philosophie, hein, mais c'est parce que, de fait, ils existent, ils sont là présents. Saint Thomas les dit tout à fait autrement. Mais si je saisis attentivement, je vois qu'en effet, je ne peux pas remonter jusqu'à Dieu sans m'établir fortement sur la base. Les cinq grandes expériences de l'homme. Autrement, alors Dieu m'est donné comme une idée. Alors, Dieu n'est pas une idée, Dieu, j'affirme son existence. Alors voyez ce que nous allons voir, hein, parce que que c'est par là. Nous essayons de reprendre le point de départ. Je fais ça parce que je crois que c'est toujours très très important. Pour moi, c'est capital. C'est de bien voir ce point de départ. Vous voyez, ce que la scolastique n'a pas assez mis en lumière. La scolastique est partie de la théologie de saint Thomas, alors on est parti des idées. Suarez dit ouvertement que la métaphysique, c'est d'avoir l'idée d'être. Alors on part de l'idée d'être. Mais l'idée d'être, où est-ce qu'elle vous est donnée? Alors évidemment, vous pouvez dire comme Rosmini, elle est innée. Oui. Dès mon berceau, j'ai une idée d'être. Pas la peine de venir ici. Non. C'est Rosmini dit ça. Non, on n'a pas d'idée d'être innée. Ce serait merveilleux, on serait tous métaphysiciens dès le berceau. Non, on doit le devenir. Et on peut tous le devenir, c'est pas quelque chose de très particulier. On peut le tous, c'est le désir naturel de notre intelligence, de creuser au-delà des expériences immédiates, de mettre en pleine lumière ce point de départ. Alors pour moi, c'est capital. Une fois qu'on a mis en pleine lumière ce point de départ, on comprend comment l'intelligence recherche les principes propres de ce qui est, ce que nous ferons. Et puis alors on voit qu'il y a deux grands principes propres, la substance et l'acte. Il n'y en a que deux, ce qui fait que la philosophie première est la plus simple de toutes les parties de la philosophie. Parce qu'il n'y en a que deux. Dans tout le reste de ma philosophie, il y a les quatre causes, et quelquefois cinq. Tandis que là, il n'y en a que deux. Vous n'avez pas de cause matérielle en métaphysique. Ça simplifie le problème. Vous n'avez pas de cause efficiente en métaphysique. Non. La cause efficiente, vous la rattrapez ici, la création. Mais ce n'est pas tout de suite. Hein. Ça fait partie, c'est un au-delà de l'analyse métaphysique. L'analyse métaphysique a deux grands axes. La recherche de la substance, la recherche de l'acte. Et une fois que j'ai découvert ça, je peux essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'homme, la personne humaine. Et je vois que ma personne humaine, c'est une substance individuelle, une substance parfaitement actuée, du moins qui cherche à être parfaitement actuée. Alors je découvre ce que c'est que la personne humaine. Ayant découvert la personne humaine, j'essaie de découvrir ce que c'est que l'être premier, et je reviens sur le rapport entre l'être premier et Dieu. C'est un problème traditionnel de la création. Bon. J'espère comme ça que vous voyez mieux hein, ce que nous allons traiter. C'est une toute petite partie, hein, mais c'est bien de voir la petite partie dans l'ensemble, dans tout l'ensemble de la philosophie, parce que tout se tient en philosophie, c'est ça la difficulté, tout se tient. On ne peut pas séparer la métaphysique, la philosophie première, de l'éthique. On ne peut pas séparer, parce que tout regarde l'homme. Tout regarde l'homme. La philosophie regarde l'homme. C'est ça qui distingue la philosophie des sciences, vous comprenez. Les sciences ne regardent pas l'homme. Les sciences modernes ne regardent pas l'homme. Les mathématiques ne regardent pas l'homme. Tandis que la philosophie ne peut pas progresser sans rester liée à l'homme. À l'homme existant, l'homme concret, l'homme que je saisis. Pas l'homme abstrait, pas l'humanité, hein, mais l'homme concret, l'homme qui existe et qui m'est donné. Tous les progrès de la métaphysique, de la philosophie, se font toujours relativement à l'homme. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on doit essayer de comprendre. Hein. Les sept dimensions de l'homme. Alors, vous voyez, entre parenthèses, hein, je peux vous le dire entre parenthèses, pour ceux qui s'intéressent à la théologie. Vous voyez que c'est les sept points de départ des sept dons du Saint-Esprit. Je ne dis pas ça à cause de cette don du Saint-Esprit, ce serait très mauvais, n'est-ce pas? Mais c'est très vrai qu'il y a les sept points de départ dans l'homme. C'est normal, puisqu'au fond, si Dieu existe, qu'il est mon créateur et qu'il est mon père, et que c'est lui qui me donne la grâce, il y a nécessairement dans ma nature, dans mon être, une puissance obédientielle à la grâce. Vous savez ce que c'est que la puissance obédientielle, c'est-à-dire une attente. Je suis un être qui attend. C'est comme ça qu'Heidegger définit en définitive l'homme. Il attend que Dieu se révèle. Tu n'attends. Je suis une béance. J'attends que Dieu remplisse cette espèce d'attente dans laquelle je suis. Et il y a cette attente, cette modalité d'attente. Et c'est cette modalité qui correspond aux sept dons du Saint-Esprit. Ceci pour donner une petite synthèse. Alors maintenant, nous allons revenir à l'analyse. C'est toujours important, il faut toujours aller synthèse et puis faire une petite... essayer de comprendre par le fait même comment la philosophie, vous voyez, se développe d'une façon très différente des sciences. Et c'est ce qui fait que nous avons de la peine à comprendre cela. Parce que nous avons des mentalités scientifiques. Et à la rayon des mentalités scientifiques, nous avons beaucoup de peine à comprendre ce cheminement particulier du philosophe. Parce que ce cheminement se fait toujours, vous voyez, cette gamme, tout le temps. C'est ça qui est extraordinaire. Vous avez un ordre où il y a sept niveaux. Sept niveaux philosophiques. Et les sept niveaux philosophiques sont reliés toujours dans l'homme. Ils sont divers analogiquement, mais ils sont un dans l'homme. C'est l'homme que j'étudie. Le philosophe regarde l'homme, le théologien regarde Dieu. Mais le philosophe regarde l'homme. Et bien, il veut regarder l'homme dans toutes ses dimensions, et l'homme est une attente de Dieu. L'homme est une attente d'un être plus grand que lui. Alors il l'attend plus ou moins bien, parce que les A du prophète sont plus ou moins déterminés. Alors il y en a certains qui sont fatigués d'attendre et qui disent « Oh non, non, faut pas attendre, faut pas attendre. Faut pas attendre, vaut mieux se replier sur soi-même. » Alors à ce moment-là, vous repliez sur vous-même, et là vous avez l'homme qui n'attend plus et qui a perdu la signification, il devient un errant. C'est plus très bien ce qu'il fait. Alors il se met en relation avec l'univers, ou il se met en relation avec les autres hommes, il essaie de comprendre que ça. C'est très très beau de voir ça, parce que c'est tellement la réalité profonde qu'on voit aujourd'hui. Quand vous essayez de comprendre cela et que vous essayez de saisir les athéismes, les idéologies athées aujourd'hui, vous retrouvez, et ça ne peut pas être autrement, sept grandes formes d'athéisme, qui sont par rapport à ces sept. Attends, ça ne peut pas être autrement. Vous voyez, il y a une réalité, même si on la refuse, on retombe dedans. Tout le temps, elle est sous-jacente. Alors, vaut mieux la découvrir. Il vaut mieux la découvrir en profondeur et aller jusqu'au bout. Donc, le point de départ de la philosophie première, ceci est ce que nous avions essayé de comprendre déjà la dernière fois. Ce jugement d'existence, ceci est, nous pouvons tous le saisir. Alors, je vous ai dit la dernière fois que ce jugement d'existence avait été interprété, on peut dire, c'est la première herméneutique métaphysique, interprété par Occam de cette manière, il y a. Très intéressant. Il y a. C'est pas la même chose de dire ceci est et il y a. Vous comprenez tout de suite que quand j'affirme ceci est, je suis en face d'un jugement qui porte sur la réalité. Ce jugement qui porte sur la réalité peut mettre l'accent sur le ceci ou sur le est. En bleu. Je mets l'accent sur le est. Je crois que tous nous pouvons comprendre ça. Dès que je réfléchis, pas l'analyse grammaticale. Au point de vue de l'analyse grammaticale, c'est très simple. Au point de vue de l'analyse grammaticale, vous avez le nom, vous avez le verbe. Et alors le verbe est relatif au nom. Oui, c'est tout à fait évident. Donc au point de vue de l'analyse grammaticale, on aura la tendance de dire que « est », on peut le mettre entre parenthèses, c'est secondaire. Ça n'a pas d'importance. « Est » n'ajoute rien du tout. C'est le nom qui est intéressant. Si je dis ça, voyez bien comment, immédiatement, toute la philosophie première dégringole. C'est extraordinaire, la fragilité de la philosophie première. Là, vous le voyez tout de suite. Dans une philosophie analytique, aujourd'hui, on parle du langage, et n'a plus aucun intérêt. Une copule, ça sert de raccrochage, on dit, ceci est Pierre et grammairien. Pierre grammairien. Donc supprimer, c'est une copule. Je dis rien du tout. Simplement, j'ai une colle plus forte, alors je la supprime. Et puis je mets tout de suite Pierre grammairien. Enfin, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous ramenez tout à la signification du ceci. Et vous oubliez que le verbe a quand même quelque chose d'important. C'est quand même important, le verbe. Alors, quand le verbe a une signification particulière, comme vous dites, marcher, travailler, oui, c'est important, travailler. C'est pas la même chose de dire Pierre travaille, Pierre ne fait rien. Là, tout le monde est d'accord. Mais quand je dis Pierre est, ou Pierre, c'est la même chose. Et n'ajoute rien. Et c'est vrai que ça n'ajoute rien. Quelle est la signification de est ? C'est pas si commun tout ça. Si vous n'avez pas de fait de métaphysique, vous direz on sent qu'une espèce d'importance. C'est le ceci qui est la signification. Et c'est le verbe relatif. Il est tout entier relatif. Oui, c'est important de voir ça au point de vue grammatical. Hein. C'est que le verbe est relatif. Et comme est une forme grammaticale, c'est un verbe le plus simple qui soit, le verbe être. C'est le verbe le plus simple. C'est le verbe qui n'implique aucune signification, d'une certaine manière. Et ça n'ajoute rien à ceci. Vous n'avez qu'à dire ceci, c'est la vache. Hein. Alors dire la vache existe, ou la vache tout court, ça n'a rien changé au point de vue signification. Sans talent, c'est toujours sans talent. Que ça existe ou que ça n'existe pas, c'est la même signification. Quand tu avais très bien vu ça, c'est la même signification. Vous voyez comme quoi la philosophie analytique est dépendante de Kant. Elle n'a pas compris ça. Elle n'a pas compris que c'est vrai, au niveau de la signification, est n'ajoute rien. Mais au point de vue de la compréhension, ça, là, alors c'est là où on va entrer dans quelque chose de tout à fait particulier. L'intelligence, elle n'est pas uniquement pour signifier. Elle comprend. Là, il faudrait regarder la différence. Elle comprend, elle saisit la réalité. Et saisir la réalité, toucher la réalité, c'est autre chose que signifier. Vous savez, les significations, c'est assez court et assez gros. Les significations, au bout d'un certain temps, ça aboutit à les définitions. Ah, moi, je veux uniquement les définitions. Allez, achetez à la roue, c'est vous faites de la philosophie. Pas besoin d'autre chose. Parce que tout est dedans, toutes les définitions sont dedans. Alors vous avez fait votre philosophie, vous restez au niveau de la définition. La signification parfaite, c'est la définition. Quand j'ai défini parfaitement, est-ce que c'est ça la réalité ? Est-ce qu'une réalité, c'est une définition ? Non. La définition, c'est ce que mon intelligence, a saisi de la réalité. Ah, c'est ce que vous en avez dit. Mais au-delà de la définition, vous n'avez qu'à regarder le gosse, hein, quand il voit une grosse locomotive arriver. Il dit, qu'est-ce que c'est ça ? Et la mère dit, locomotive. Hein? Et le gosse dit, qu'est-ce que c'est que locomotive ? Mais locomotive. Et puis c'est tout. C'est pas besoin d'autre chose. Une locomotive, ça se définit par le locomotive, et puis c'est tout. Mais le gosse, il est beaucoup plus réaliste. Il veut savoir ce que c'est. Vous voyez, c'est comme très curieux. On ne se contente pas de la définition. Se contenter de définition, c'est se contenter d'être de raison. Ça ne nourrit pas beaucoup. Vous affirmez les définitions, c'est quelquefois même terrible. C'est quelquefois terrible, les définitions. Les définitions peuvent arrêter le développement de l'intelligence. L'intelligence veut aller plus loin que la définition. L'intelligence veut saisir le réel. Ah, le réel. Au-delà de la signification, il y a le réel. Ceci est. C'est ça que vous voulez dire quand vous dites ceci est. Vous voulez dire ceci est une réalité. Une réalité qui existe en dehors de ma signification. C'est une réalité qui a son existé. Indépendamment que je la définisse. Tandis que la définition, elle n'existe que dans mon intelligence. Quand je définis quelque chose, je possède cette réalité et je la possède autant de moi-même. Alors vous voyez, je ramène le réel à ce que je comprends du réel. Ramener le réel à ce que je comprends du réel, c'est relativiser le réel à mon intelligence, et c'est donc m'enfermer dans ma propre connaissance. Et à ce moment-là, je ne rejoins plus jamais l'autre. L'autre, c'est pas la définition. Non. L'autre n'est pas la définition. L'autre, c'est moi qui pense. Je veux dire, la définition, c'est moi qui pense. L'autre, c'est l'au-delà de ce que je pense. Ceci est. Une fois que vous avez saisi ça, on peut saisir ça quand même, hein, la différence entre le réalisme et le point de vue d'une idée, d'une définition. La définition, c'est une idée. Hein. Une définition, c'est une idée, c'est sûr. C'est une idée parfaite, la définition. C'est une idée parfaite. Une idée bien, 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 bien reluisante, très séduisante. Quand j'ai saisi la différence entre là, le réel existant qui m'est donné et la définition, je comprends qu'il y a un problème. Quand je dis ceci est, ce n'est pas la même chose que ceci. Alors je peux me demander quelle différence y a-t-il entre le ceci est et le ceci. C'est intéressant de se demander la position entre les deux. Quelle différence y a-t-il entre le ceci et... Je peux voir que le ceci, il est très divers. Il y a une très grande diversité des ceci, puisque c'est la vache, c'est vous. Alors c'est là où je vous disais, quand Maritain parle de l'intuition de l'être, il faut bien saisir quand Raïssa est l'intuition de l'être. Raïssa voit l'exister, le chat existe, j'existe. Le chat, ce n'est pas moi, et pourtant tous les deux nous existons. Les ceci sont divers et tous sont unifiés par « et ». La vache existe, la table existe, j'existe. Alors il y a un problème, vous voyez, c'est très beau comme intuition. Saisir à travers cette diversité l'unité de l'être. D'être en pleine lumière est ce que ne fait pas l'analyse grammaticale, puisque l'analyse grammaticale relativise le verbe par rapport au nom. Et alors, si je pousse jusqu'au bout l'analyse grammaticale, je peux dire, ben oui, le verbe est complètement saisi par le nom. Et donc, c'est le nom seul qui m'intéresse. Tandis qu'au contraire, si je suis intelligent, ça ne veut pas dire que l'analyse grammaticale n'est pas intelligente, mais l'analyse grammaticale coupée du réel devient très vite bête. Mais c'est comme celui qui veut uniquement des définitions, en disant, moi, je n'ai pas besoin de la réalité. Ben, pas du tout. La définition provient de la réalité. Et donc j'ai besoin de revenir à la source de la définition. Alors je me pose la question, la diversité est-ce ? Je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Vous voyez, à partir de ce jugement d'existence, je me pose la question, qu'est-ce l'être ? Et c'est ce que je vous disais, c'est à partir de ce moment-là que la métaphysique commence. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, comprenons bien, quand je dis « il y a », je ramène « et » à ceci. Et je ne peux plus poser la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Donc, je tue le jugement d'existence en le ramenant à ceci. Et je crois que c'est là où nous découvrons le positivisme métaphysique. Le positivisme métaphysique, c'est de ramener l'être à ceci. C'est pour ça que la philosophie analytique, c'est du positivisme philosophique. Et le positivisme métaphysique. Parce que je ramène le « et » au « ceci ». Et ceci provient du fait que j'ai transformé le « ceci est » en « il y a ». Ce que Occam a fait le premier. C'est vieux, hein ? 14e siècle. Depuis le 14e siècle, la scolastique charrie cette erreur. Et cette erreur est sortie de la scolastique et maintenant nous la voyons se diffuser partout. Et on oublie le jugement d'existence. Et alors si on oublie le jugement d'existence, vous ne comprenez plus comment l'intelligence se pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Si j'oublie le jugement d'existence, si je dis simplement « il y a », faites sortir de « il y a » « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Ah, vous pouvez. Vous pouvez très bien à la manière de Heidegger. Parce que c'est le Esgib d'Heidegger, il y a. Vous pouvez très bien à la manière de Heidegger. Alors comment vous le faites ? Par un procédé dialectique. Il y a, c'est les étangs. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Ça n'a aucun rapport avec étang. Et donc entre les étangs et l'être, il y a le rien. Le rien supprime les étangs et fait apparaître l'être. Vous voyez comment le procédé de l'être apparaît à partir des étangs, à partir de « il y a », à partir des « ceci ». Et donc l'être apparaît comme totalement différent des étangs. Alors que si je fais sortir l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» du « ceci est », il y a un lien entre l'interrogation du « ceci est » et l'expérience que j'ai. Et mon interrogation demeure liée à l'expérience. Tandis qu'au contraire, si l'être apparaît en rivalité des étangs, si j'ose dire, en opposition des étangs, alors l'être, la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» n'a plus aucun lien avec l'expérience. Et si l'être n'a plus aucun lien avec l'expérience, l'être est donc sorti de mon intelligence. Vous voyez la subjectivité transcendantale. Et l'intelligence pose elle-même, par elle-même, l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Ce n'est plus la réalité, puisque les étangs ont été rejetés. C'est ce qui est très intéressant avec Heidegger aujourd'hui, parce que Heidegger montre, vous voyez, le succès d'année dernier de Occam. Le dernier Occamien. N'est-ce pas une vulgarité ? Alors ce soir, je continuerai, je m'excuse pour ceux qui ne peuvent pas assister, mais tant pis.
Je voulais vous demander, Gagnon, si je n'ai pas parlé avant, parce que j'ai eu un accident.
Oui.
Est-ce que je vous demandais si vous avez fait un examen avec vous de critique et de théologie naturelle ?
L'année dernière ?
Oui.
C'est évident.
Et est-ce que je pourrais faire un travail de séminaire sur l'induction des substances à partir du livre de Dieu ?
Oui.
C'est vrai.